On va se mettre en opposition carrée au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution.
Working people, young people, the elderly, all of us need to get involved. We need to take our power into our hands collectively.
Bienvenue au podcast d'Alternatives Socialistes.
Bonjour Charles.
Salut Simon-Pierre, comment ça va?
Ah mon Dieu, ça va-tu bien? Écoute, quarantaine, coronavirus, on se fait des pâtes là.
On se fait des pâtes, ouais. Puis en tout cas, moi je sais pas, moi mes pâtes ils vont bien, mais mes cheveux ça pousse.
Ouais, je te comprends. Fait qu'écoute, là on fait un spécial podcast à distance. Puis tu sais, dans les médias aujourd'hui, là, ce qui se passe, c'est que les gens, là, ils regardent Obama, ils disent c'est un socialiste. Ils regardent Trudeau, c'est un socialiste. Bernie Sanders, c'est un socialiste. Staline, c'est un socialiste. Tout le monde est socialiste avec leur mère. Oh. Mais là, moi, ma question d'aujourd'hui, c'est quoi un socialiste?
Bon, ben écoute, je vais prendre la question un peu de façon contournée en disant qu'est-ce que le socialiste? Puis je vais répondre en même temps à la fois qu'est-ce qu'un socialiste? Bon, ben tu sais, on a déjà fait un podcast sur comment la bourgeoisie est arrivée au pouvoir puis comment ça a développé le capitalisme. Puis ce système capitaliste-là, il est divisé en deux grandes classes sociales. Ceux qui possèdent l'argent, les riches, puis les usines, puis tout le kit. Puis t'as l'autre gang, qui est nous autres, la grande somme de la population, qui, eux, ne sont pas propriétaires des moyens de production, etc., puis des usines.
Ce qui fait ça... qu'est-ce qu'on vend, nous autres, pour survivre, là, les travailleurs?
Ben, c'est ça. Fait que nous, quand on se présente devant un employeur, on lui vend notre force de travail, puis c'est tout, de façon globale. Voilà. Puis, il faudrait une révolution qui va abolir, justement, les classes sociales. Puis, comment on parvient à ça? C'est la question de la propriété privée des moyens de production qui est contrôlée par une minorité, puis qui va pas dans le sens du monde, puis de la démocratie.
OK. Je t'entends. Fait que le socialisme, en gros, c'est le mouvement révolutionnaire vers l'abolition des classes, l'abolition de la propriété privée des leviers de production, hein, pas la brosse à dents, ça c'est une valeur d'usage, d'autres c'est un moyen de production, une usine.
C'est ça.
Mais là, on retourne au début, là, parce que là, les gens sont peut-être comme, ouais, mais pourquoi on veut faire ça, la révolution? Moi, j'ai un bon salaire, moi, j'aime mon boss, moi, j'ai des assurances vie, tu sais, j'ai une famille et une maison, pourquoi je voudrais faire ça, moi, une révolution? Fait que c'est quoi les problèmes qu'ont la classe ouvrière vis-à-vis la classe capitaliste qui nous ferait vouloir faire une révolution, justement?
Ben, tu sais, par exemple, il suffit juste d'ouvrir le journal, ben, c'est encore drôle, là, le journal ou les médias, mais tu te rends compte que il y a du monde qui mène des luttes partout. Pourquoi? Parce que les salaires, ils n'ont pas augmenté. Puis ça, c'est un exemple vraiment, je pense, concret, qu'à un moment donné, si tu n'as pas de bons salaires, de bonnes conditions de vie et de travail, ben, tu n'es pas capable d'être bien. T'es tout le temps en précarité ou en phénomène de précarisation. Puis ça, pourquoi il y a un phénomène de précarisation dans l'ensemble des domaines de la vie, là? C'est parce que justement, en haut, ils sont radins, puis ils veulent toujours plus d'argent, puis ils sont écœurés de payer des impôts, on veut pas payer pour le pauvre monde. C'est ça la réalité du monde, Simon-Pierre.
Ben,
c'est ça qu'il faut une révolution. En haut, ils ont toujours plus d'argent, puis nous autres, on a toujours moins.
Ben, c'est moins ça que je m'en allais dire. Ouais. Il y a plusieurs graphiques qui en parlent aux nouvelles, ils en parlent à la section économique, que les riches s'enrichissent à chaque année, puis les pauvres s'appauvrissent. Puis le pire là-dedans, c'est que même en 2008, quand l'économie a crashé ben raide, puis que les fonds de pension ils ont disparu, puis que les gens ils ont fait faillite, puis ils ont perdu leur maison, ben il y a rien qu'une catégorie de monde qui s'en sont sortis avec plus que quand ils sont rentrés, ça c'est les capitalistes.
C'est fait ça.
Tout le monde s'appauvrit. En période de croissance économique, les propriétaires qui sont sur la bourse, eux autres, là, leurs pourcentages sont bons. Puis même en période de récession, ben eux autres aussi s'enrichissent. Puis nous autres, pendant ce temps-là, ben les oufs, ben on continue que notre valeur d'argent a continué de descendre.
C'est ça. Mais tu sais, il faut dire aussi qu'il y a une propagande qui est en faveur du maintien de l'idéologie capitaliste qui fait en sorte que c'est pour ça que ensuite on laisse toujours le système se reformer sur de nouvelles bases, bien que la base principale ça reste l'exploitation du monde là. Mais ça aussi on en reparlera, mais il faut s'attaquer à ce qu'on appelle en jargon marxiste aussi à la superstructure qui est, mettons, l'église, les lois, toutes les institutions bourgeoises capitalistes.
Ah, ça c'est super intéressant, mais écoute, tu sais, moi, là, on parle des riches qui s'enrichissent et tout ça, mais il y a du monde qui disent que c'est juste, les riches, ils ont juste besoin de décider de pas faire autant d'argent, tu sais. Puis nous autres, on a juste besoin de décider de travailler plus fort pour faire plus d'argent. Puis la population, on a juste besoin de voter pour le bon parti, pour changer la société. Pourquoi est-ce qu'on n'arrange pas les choses de cette manière-là? Pourquoi est-ce que nous, on parle justement tout le temps de révolution, révolution? Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire des réformes?
Ben, tu sais, c'est ça, exactement. C'est une bonne question, mais je prends l'exemple d'une entreprise, là, qui fait bien de l'argent puis qui est cotée en bourse. Si elle veut performer, Simon-Pierre, là, puis qu'elle veut être bien cotée par les agences de notation puis de cotation, je sais pas qu'on appelle ça, là. Mais en tout cas, tu sais, faut qu'il soit tout le temps rentable. Ça veut dire le profit tout le temps. Ça veut dire donc le profit à tout prix. Donc, demandez à Jeff Bezos, hey, s'il te plaît, sois vertueux puis sois plus équitable. Fais en sorte qu'il y ait de la justice sociale. Pour lui, c'est non concevable. Puis c'est comme ça que ça fonctionne parce que eux, ils font prévaloir leur droit à la propriété puis à l'accumulation de capitaux puis de richesses.
C'est drôle que tu parles.
Ouais.
Excuse. C'est drôle que tu parles de Jeff Bezos parce que lui, tu sais, c'est l'homme le plus riche de la Terre, il y a de l'argent, il y a plus d'argent que certains pays au complet dans le monde en ce moment.
Mm-hmm.
Puis il est incapable de payer genre l'assurance maladie de ses employés, puis leur donner genre des masques pour faire face au coronavirus.
Ben,
il est en train de demander de l'argent au gouvernement pour sa force ouvrière. Fait qu'on fait quoi avec cet argent-là? Ben, elle va juste dans les intérêts de Jeff Bezos, puis lui, il va tout faire pour pas payer de taxes. Justement, nous autres, alternatives socialistes, on a une camarade à Seattle qui s'appelle Shamas Awad.
Mm-hmm.
Puis Shamas Awad, c'est une représentante municipale, si je ne m'abuse.
Exact.
Puis elle, à Seattle, ils ont des sans-abri là, beaucoup plus qu'à Montréal. Les frais de loyer, ils augmentent là, de manière vertigineuse. Eux autres, premièrement, ils ont pas de... Comment est-ce qu'on appelle ça l'organisme que nous autres à Montréal, quand on a des problèmes avec notre propriétaire?
Ah, la régie du logement.
La régie, eux autres, ils ont pas de régie du logement, puis ils ont pas de loi qui a encore des maximums de hausse de loyer à chaque année. Fait que tu comprends-tu que là-bas, ça va pas bien quand t'es juste un petit quelqu'un qui loue son logement, là, toi, t'as pas vraiment de protection.
Non, exactement.
Chama Sawant, elle rentre là, puis là, elle voit les sans-abri, puis elle dit, nous autres, ce qu'on a besoin de faire, c'est de construire des logements sociaux en masse pour baisser la hausse de prix vertigineuse de genre 10% par année et d'avoir des logements abordables pour les gens qui ont besoin, tu sais, qui ont des familles, qui ont pas des jobs, qui payent trop cher, mais qui veulent vivre, ben, Colin, ils ont besoin de logement même.
Okay.
Ben, devine, c'est qui la première personne qui y a fait face pour pas qu'elle fasse ses plans dits socialistes, dans le fond, parce qu'elle, c'est une membre d'Alternative Socialiste, ben, c'est Jeff Bezos.
C'est Jeff Bezos, ben oui.
Puis écoute, il a mis $1 million à tous les candidats qui renaient contre Shamas Awad. Même s'il était de gauche, même s'il était genre l'équivalent du NPD ou de Québec solidaire, parce que Shamas Awad, elle voulait taxer les riches pour faire des logements sociaux, ben Jeff Bezos, son intérêt de classe, ça a été de dire, moi là, je veux pas ça, puis je vais donner de l'argent à tout le reste du monde pour pas que ça arrive.
Ben c'est ça, puis en plus... Ce que dit Alternative Socialiste aux États-Unis puis Shamas Awad, c'est on aimerait ça aussi avoir le contrôle démocratique des prix des loyers. Fait que là, lui, l'autre bord, c'est sûr qu'il a la chienne. Il dit s'ils réussissent à faire ça pour le logement, ils vont le faire aussi pour les entreprises. Puis ça, c'est socialiste que de réclamer le contrôle démocratique, t'sais, que ça soit par la nationalisation ou par autre moyen, t'sais. Fait que ça leur fait peur parce qu'on s'attaque à leur pouvoir directement en faisant ça.
Ben c'est ça qui arrive avec Jeff Bezos, c'est parce que il y a le contrôle sur les moyens de production qui est Amazon, une compagnie écoute que effectivement, ça aide la société à plusieurs niveaux, mais en même temps, de par son exploitation de sa force ouvrière, s'enrichit comme ça n'a pas d'allure. Ben parce que Jeff Bezos, il y a le contrôle de cette compagnie-là. Ben non seulement il y a un, de l'argent comme on en a jamais vu, mais deux, il y a un pouvoir politique excessivement toxique. Les gouvernements aux États-Unis, on l'a vu avec son $1 million. Je veux dire, on l'a gagné la campagne pareil, mais ça a été une grosse lutte de terrain. Mais lui, avec son $1 million, il a un méchant pouvoir de changement sur qui va gagner les élections. Puis c'est ça le problème, c'est que ceux qui ont les contrôles des moyens de production avec leurs intérêts économiques, ben ils contrôlent bien plus l'appareil étatique que la majeure partie de la population qui font du $15 de l'heure ou
mais
moins.
Oui.
Enfin, c'est là le clou, c'est là la substance du problème, c'est que nos intérêts de classe ne se font pas représenter par l'État bourgeois. Leur intérêt classe se font représenter, mais de manière tellement exagérée que nous autres, on a des miettes de pain, puis c'est pour ça qu'ils s'enrichissent, c'est ça que nous autres, on s'appauvrit.
Ben c'est ça, puis c'est pour ça qu'il faut lutter avec les travailleurs et travailleuses pour qu'on ait un État social à nous autres. C'est impossible. Les États-Unis, là, depuis qu'on a commencé ce podcast-là ensemble, on parle de Jeff Bezos, puis à quel point il y a de l'argent, puis qu'il y en a qui ont de l'argent dans le monde, là. Ben, justement, les États-Unis, c'est le meilleur pays pour dire, regarde les salaires de des congressistes puis des sénateurs, là. Ils viennent tous des mêmes milieux, ils se connaissent tous, ils mangent tous dans le même resto. C'est même que Donald Trump, il était au Parti démocrate avant, puis que George Bush puis Clinton, ils vont à des games de baseball, là, puis ils se font prendre en photo ensemble. C'est ça, le capitalisme, puis c'est ça, la classe bourgeoise. Pis eux, ils connaissent leur intérêt de classe en tant que capitaliste. Puis c'est à nous autres maintenant de faire la job pour qu'on développe une conscience, qu'on est une classe sociale, puis qu'on a des intérêts en tant que classe. Puis en tout cas, c'est pas le profit, c'est plutôt la liberté, l'égalité, puis la justice sociale.
Donc, écoute, ça c'est très bon ce que tu viens de dire, Charles. Fait que je te fais une section de podcast de questions en rafale. Je veux que tu fasses des réponses bien, bien rapides, puis tu me réponds ça bien, bien clair. Numéro 1, est-ce que Justin Trudeau est un socialiste?
Non, c'est un capitaliste bourgeois libéral.
Donc, pourquoi rapidement on dit que Justin Trudeau, même s'il parle de féminisme, puis d'aide aux Autochtones des fois, même s'il a acheté un pipeline, mais ça on n'en parle pas, pourquoi est-ce que lui c'est pas un socialiste, rapidement?
Ben, dans le fond, de un, il remet pas en cause la propriété privée des moyens de production, puis de deux, il fait juste du discours. Puis trois, pourquoi il y a du monde qui voudrait dire que lui, c'est un socialiste, c'est que de temps en temps, il décide de faire intervenir l'État dans la question économique puis sociale. That's it. C'est terminé.
Parfait. Numéro 2, Bernie Sanders. Socialiste ou pas socialiste?
Bon, Bernie Sanders a une tendance socialiste, mais encore là, c'est ce qu'on appelle le réformisme. Ce qu'il veut, c'est qu'on s'en remette aux institutions bourgeoises, comme le Congrès puis le Sénat, puis d'avoir des gauchistes là, si tu veux, pour changer les choses. Mais il appelle pas à une révolution nécessairement 100% par la base, pour la base.
Donc c'est ça, Bernie Sanders, ce qui arrive, c'est qu'il ne s'attaque pas à l'écart de pouvoir entre les riches et les pauvres, dans le fond. T'sais. Il ne s'attaque pas au fait que les riches ont le contrôle sur l'appareil étatique, puis nous autres, on n'a jamais le contrôle. Lui, il essaie de faire des réformes temporaires qui vont aider les travailleurs, mais sans s'attaquer à la question de pouvoir. Donc, les travailleurs, après Bernie Sanders, ils n'ont pas plus de pouvoir dans leur société.
C'est ça. Il appelle pas à la création de conseils de travailleurs ou de briser l'État. Il a fait quelque chose de socialiste en bâtissant un mouvement derrière lui. Ça, c'est extraordinaire, mais c'est encore ça. Encore là, c'est derrière lui, malgré lui. Même s'il dit non, c'est pas moi, tu sais, qui est important. Ça reste que là, il faut se poser les bonnes questions, puis que voilà.
C'est ça. Donc, Bernie Sanders, c'est une étape positive dans la lutte de classe.
Exact.
Les gens, ils parlent de socialistes, les gens, ils parlent des riches, les gens, ils parlent des intérêts matériels de classe, etc., etc. Québec solidaire, est-ce que c'est communiste, Québec solidaire?
C'est pas communiste, c'est un parti social-démocrate à tendance, on va se le dire, socialiste. Là, quand on regarde le programme, il y a des éléments socialistes, mais encore là, depuis des années, on voit Québec solidaire moins souvent dans la rue, puis plus souvent nous demander de faire des dons, puis d'être fiers de nos députés, puis d'envoyer des députés pour créer une majorité de gauche, pour changer les choses, puis que tout va bien aller. C'est pas 100% socialiste.
C'est ça qui arrive, parce que là, ce que j'aimerais parler rapidement, c'est le concept de dialectique.
Okay.
Spécifiquement, quand on applique le concept de dialectique quant au programme l'éco-transition de QS, ainsi que leur programme politique en général.
OK, ben parle-moi donc de ça un petit peu.
Fait que si vous lisez les 100-quelques pages du programme de transition écologique de QS, qui est super intéressant, il y a des idées comme intéressantes comme la création d'une banque publique, de demander aux entreprises de XYZ secteur de faire moins de pollution, de renflouer les coffres du ministère de l'Environnement pour qu'il fasse plus sa job. Ça, c'est des idées qui sont vraiment intéressantes. On veut ce genre d'idée-là dans notre société, parce qu'on en a besoin. Attends-moi une seconde.
La
quarantaine. Donc, ça, c'est parfait. Ces idées-là, on est d'accord avec ça, il faut les pousser. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une lutte de classe, dans le sens que même si QS gagne. C'est pas comme s'il allait avoir une table, tu sais, rase, genre une feuille de papier blanc. Puis là, ils écrivent leur vœu sur cette feuille de papier et comme par magie, ils se manifestent et tout le monde est d'accord, kumbaya dans la société. Mmh. Écoute, Charles, quand Pauline Marois a gagné ses élections en 2013,
ouais.
Écoute, on s'entend que le PQ, là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait des efforts concrets pour mener à l'indépendance du Québec. Entre toi et moi,
totalement. Avec
Pierre-Carl Péladeau, là, puis les autres, tu sais, le leader ultra, genre, riche bourgeois, propriétaire, bref.
Oui,
oui. C'est pas fort sur la mobilisation de la base pour faire une indépendance du Québec. Mmh. Mais, Pauline Marois, elle en a parlé, genre, un peu plus que les autres.
Mmh.
Quand elle a gagné, juste la menace du peut-être de « Oh my God, elle en a parlé, qu'elle va peut-être changer les affaires », la cote de crédit du Québec a baissé.
Ben oui.
Le pouvoir d'emprunt de l'État au grand complet québécois a baissé. Nos intérêts d'emprunt ont monté. Ça veut dire que ça nous a coûté là, cher en intérêts cette année-là, juste parce qu'elle a dit qu'à quelque part, il faudrait peut-être essayer, si possible, de faire l'indépendance que si ça donne. Puis elle a rien fait, dans le fond.
Ben oui.
Fait que t'imagines-tu... T'imagines-tu QS gagner puis dire « On nationalise ici, on fait une banque là, on fuck les compagnies ici, on coupe là. » Écoute,
l'économie puis les élites, là, les banquiers, l'élite internationale financière, les institutions de prêts et bourses, les élites qui possèdent les grandes entreprises au Québec, qui sont en majorité des Canadiens, on s'entend.
Ouais.
Hey, bon, ils rentrent dedans, ils vont avoir des campagnes contre QS dans les journaux, là, Journal
de Montréal,
le Québec, les radios poubelles. À chaque jour, ils vont se faire ramasser. Mm. Puis la seule manière de contrer ça, Charles, c'est d'avoir les masses, c'est d'avoir les travailleurs unis, organisés, derrière un programme progressiste socialiste pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, on va se faire manger la laine sur le dos, on va se faire plaqué à terre, puis QS va rien changer. Ça va être un autre... c'était qui le leader grec, là?
Ouais, avec le parti Syriza, là. Tsipras.
Ça va être des Syriza.
Ouais, tout à fait.
Pourrais-tu me raconter qu'est-ce qui est arrivé avec Syriza, rapidement?
Ah, je t'avoue que là, c'est un peu loin derrière moi, mais tu sais, en gros, Syriza avait un programme pas pire, hein, pour contrer l'austérité. Ils ont demandé l'avis aux Grecs, leur rapport avec l'Union européenne, puis qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à l'austérité, puis on fait tout le contraire de ce qui avait été exigé de la part de la population grecque. T'sais. Fait que là, Syriza a montré son caractère réformiste. C'est-à-dire, on va jouer la légalité bourgeoise, on va jouer la game bourgeoise, puis surtout, on va pas détruire l'État bourgeois. L'image est vraiment violente, j'en suis conscient, pour les gens qui nous écoutent, détruire l'État bourgeois, ça fait un peu... Ben là, le lendemain, ils se rentrent... Il n'y a plus rien. C'est pas ça qu'on est en train de dire, c'est de créer un nouveau pouvoir pour la classe, par la classe, tu sais.
Puis,
vas-y. Oui.
Ah, j'allais juste dire que si les gens veulent avoir une image claire, concrète, accessible, puis genre super facile à lire, je vous propose de lire le programme de transition de Trotsky, que nous, internationalistes socialistes, on vend à nos tables, sur notre site web, peu importe. Puis ça rentre vraiment dans les étapes là, qui commencent de maintenant jusqu'à la création. Maintenant, là, pas après la révolution, mais avant la révolution, des structures de pouvoir démocratique qu'on peut faire on the way to the revolution. Tu sais, dans le sens que là, on a des syndicats, donc il faut renforcer les syndicats, mais dans le programme de transition, on parle des comités de travailleurs, ce qu'on appelle les comités d'usine, dans le fond. Bon, qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, c'est des comités
qui sont en charge de plus en plus de pouvoir d'administration et de surveillance de l'usine,
à savoir que l'usine se fait administrer dans l'intérêt des travailleurs de cette usine-là.
Mmh.
Mais ça, d'un coup que tu as des travailleurs qui sont en charge des décisions de l'usine, ben
après la révolution,
ben là, tu as déjà une structure qui fait en sorte que le lendemain de la révolution, l'usine, le IGA, le Loblaws, le Sport Express, ça ne dérange pas, ils rouvrent. Parce que tu as déjà les forces qui sont amplement capables de faire la direction de ces entreprises-là.
Ben oui, puis c'est pareil pour les fonctionnaires aussi, hein. Quand la révolution, c'est ça qu'on souhaite, c'est qu'eux aussi peuvent avoir des leviers de décision, puis de pouvoir s'exprimer en disant, je pense qu'on devrait s'en aller vers ça. Tu sais, la population en ce moment là, chez les fonctionnaires comme dans la population standard, je suis convaincu qu'ils sont tous inquiets de la question écologique. Mais je suis convaincu qu'il y en a là-dedans. Que si on leur disait maintenant, t'as un lieu de décision puis d'expression, ils seraient capables d'exposer leurs solutions, puis ils seraient capables de débattre puis de dire on s'en va vers là.
C'est super important de pas avoir peur de cette réalité-là, parce que historiquement parlant, on a exemple après exemple après exemple de gens qui viennent, tu sais, s'organiser et qui continuent le fonctionnement, même à plusieurs instances, qui est plus efficace. Je pense à la Révolution française ou les protestations françaises de mai 68.
Ouais, ouais.
Je pense à la Révolution espagnole juste avant la Deuxième Guerre mondiale, je pense dans les années 30, mi-30.
Exact.
Puis écoute, j'en passe, là, on s'entend qu'il y en a des exemples historiques, mais l'idée, c'est que quand les gens s'organisent, ça va bien.
Mm-hmm.
Historiquement parlant, puis ça, on en reparlera dans un autre podcast, les choses vont mal quand les intérêts capitalistes se rassemblent, viennent chercher le pouvoir militaire, puis qui viennent tuer tout le monde à l'aide de Pinochet, puis de dictateurs, etc.,
oui.
etc.
Exact.
Donc, c'est là que ça va mal. Il faut pas avoir peur du pouvoir prolétaire, parce que ça, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est de continuer la révolution contre la revanche des capitalistes qui sont encore là avec leur pouvoir financier. Puis ça, c'est la partie difficile. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment être organisé. C'est pour ça qu'il faut être vraiment fort dans notre lecture de dialectique de lutte de classe. Si on est pour aboutir à une révolution qui est légitime, dans le fond.
Mais c'est ça, puis... Tu sais, Robespierre, un des grands révolutionnaires français, disait « Personne aime les missionnaires armés ». Pourquoi je dis cette phrase-là? C'est que tu peux pas imposer à un peuple ou à un autre peuple des idées révolutionnaires puis décider de dire « ben tu vas avoir tel type de constitution, tel type d'institution ». Je dis ça parce qu'il faut être conscient qu'une révolution, ça ne doit pas être faite par une minorité révolutionnaire. Ça doit être... notre job en tant que marxiste, là, puis socialiste, trotskiste, toute l'équipe, faut aller à la rencontre des travailleurs et des travailleuses, des étudiantes, des étudiantes, des chômeurs, des personnes précarisées, etc. Puis discuter avec eux, c'est quoi vos intérêts, c'est quoi vos besoins dans l'immédiat, puis nous d'avoir un discours socialiste et rationnel. C'est ça qu'il faut faire. Pas dire prendre des drapeaux rouges puis aller dans les rues là, sur Sainte-Catherine puis fâcher le monde. Je m'emporte un peu.
Donc, non, mais c'est la réalité que les gens observent, qu'il y a des groupes que nous on dirait aventuristes, qu'ils se promènent dans la rue en disant révolution demain matin, puis abat l'État, puis la police, puis fuck tout.
Mm-hmm.
Mais ça c'est une approche parmi d'autres. Mais nous ce qu'on argumente dans le fond avec Alternative Socialiste, c'est vraiment d'approcher la base. Fait que, par exemple, un exemple concret, on irait dans un centre hospitalier maintenant. Ça serait vraiment on est en train de parler dans notre groupe de comment faire ça. Mais on irait dans un centre hospitalier où est-ce que, écoute, c'est précaire au bout, les infirmières puis les travailleurs de soutien. Ils manquent de masques, c'est dangereux de travailler. Ils ont pas de prime de salaire pour le risque, justement, à leur vie qu'ils ont en ce moment. Puis nous autres, ce qu'on irait dire à ces gens-là, c'est, OK, fait comment est-ce qu'on va s'organiser dans votre milieu de travail pour faire valoir vos revendications à l'intérieur de votre syndicat? Ben ça, c'est du travail de terrain. Mais à travers ce travail de terrain-là, ces employés-là se font politiser, apprennent les intérêts de classe de leur propre classe, qui est la classe des travailleurs, apprennent à jouer la game du pouvoir politique, à gagner.
Ouais.
Avec ces victoires-là, ben là, on rajoute dans la lutte de classe à société. Nous, on peut recruter les éléments les plus motivés pour aller faire d'autres luttes ailleurs, sur d'autres milieux de travail.
Ouais.
Puis ensuite de ça, ben, on peut inviter ces gens-là à rejoindre QS pour nous aider justement à bâtir QS. Donc, tout est dans tout.
Oui, tout à fait. Puis je vais même mettre des mots sur ce que tu viens de dire, là. Un socialiste, puis pour répondre aussi à la première question, un socialiste révolutionnaire, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a une arme, puis qui a un beau béret, puis qui a un brassard rouge. Un socialiste révolutionnaire, dans la pensée de Lénine puis Trotsky, c'est quelqu'un qui est capable d'être un organisateur politique, d'être un agitateur, puis d'être à l'écoute, puis de pas aller dire au monde quoi faire. Les exemples que tu donnais, c'est super, parce que ça fait juste préciser que, dans le fond, nous, on va là pas pour imposer un modèle, mais pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en termes d'organisation, comment on peut l'organiser, la lutte, la structurer, puis nous, avoir un discours de classe pour dire il y a des limites à ce système capitaliste-là, puis il y a des limites à demander des réformes. Il faut un pouvoir qu'on appelle le pouvoir ouvrier, au sens large, là, des travailleurs puis des travailleuses.
Exactement. Puis vraiment, l'emphase, en tout cas personnellement, c'est sur la dialectique matérielle, mm-hmm. matérialisme dialectique, peu importe, que je disais justement en autre exemple concret au programme de QS, c'est que la plupart des membres de QS, je pense qu'ils croient que si on vote assez fort pour QS, QS va être capable de passer son programme. Mm-hmm. Mais c'est si on regarde une étude historique des gens qui ont essayé de faire ce genre de réformes-là durant les derniers 200 ans, parce que le capitalisme, c'est pas d'hier qu'il existe, ben c'est toujours la même histoire. Puis nous, Alternative Socialiste, on fait partie de l'Alternative Socialiste internationale dans plus de 30 pays.
Ben oui.
C'est tout le temps la même histoire. Puis il y a des pays où est-ce que QS ou les partis comme QS gagnent. Puis nos prédictions, ils se matérialisent. Il y a une résistance de classe des capitalistes, comme Chamassawant à Seattle.
Exact.
Donc, il faut arrêter d'être naïf puis penser que tout le monde est kumbaya, même dans la main. Puis il faut être réaliste avec le fait que si on veut que grand-maman ait ses médications à bon marché, si on veut que les femmes aient accès aux moyens de contraception qui incluent avortement partout au Québec gratuitement, si on veut que l'éducation soit accessible aux gens qui viennent de milieux de pauvreté, si on veut éliminer l'existence des sans-abri, des SDF qu'on appelle, ben il faut prédire la lutte qui va être nécessaire parce qu'elle va nous être imposée anyway.
Ben, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire par prédire, mais tu veux dire, c'est ça. Faut l'avoir venir, du moins, tu sais.
C'est ça. Tu sais, faut être prêt pour ce qui va se passer. Puis pour prédire ce qui va se passer, faut faire notre étude. Tu sais, faut se former.
C'est ça. Faut être sur le terrain. Faut écouter les nouvelles. Puis diversifier nos sources. C'est pour ça que j'appelle ici dans ce podcast à nos auditeurs. N'hésitez pas à aller voir le site d'Alternative Socialiste. Puis toutes nos sections à travers le monde. Parce qu'on a un journal de lutte. Puis qui présente le point de vue des socialistes puis des gens de la classe. Puis aussi s'intéresser à l'histoire pour comprendre comment les capitalistes, à travers le temps, ils se sont organisés pour nous réprimer lorsqu'on a eu des aventures révolutionnaires.
Exactement.
Ouais.
Bon, ben Charles, je pense que, à moins que tu veux rajouter quelque chose, je pense qu'on a fait le tour de la question aujourd'hui.
Ben écoute, moi j'ai été très enchanté d'avoir cette discussion-là. Je sais que je me suis peut-être emporté. J'espère que ça va pas trop déplaire, mais en tout cas, c'est parce qu'en ce moment, on le voit comment la crise, là, au début, tout le monde était, comme tu dirais, comme kumbaya envers notre premier ministre François Legault. Mais là, de plus en plus, on voit qu'il manque des masques, on voit ci, on voit ça. Les négos du secteur public, ça va moins bien que prévu. Ben, tu sais, c'est ça les capitalistes à quoi il faut s'attendre. C'est des belles paroles, puis par en arrière, ils te volent.
Puis il faut pas oublier que Trudeau, hein, quand que l'industrie pétrolière a eu besoin d'argent, c'était tout de suite l'argent. C'était demain matin, vous allez avoir vos milliards. Mais quand les gens ils se font menacer d'expulsion de leur loyer, là, ça va être mi-avril, là, une couple de semaines, là, on va voir.
Ben c'est fait ça, puis en plus, on a Legault qui est comme on dirait le moins pire. Je regarde, tu parles de Trudeau, il a niaisé. Macron, il a niaisé. Trump. Lui, il niaise en ce moment. Il a niaisé, puis il niaise en plus. Tu sais, ils font passer Legault pour un bolchevique.
Ouais,
mais
c'est
ce
ça.
N'est pas un bolchevique, je le répète aux gens. S'il vous plaît, gardez votre analyse en tête. Prenez ce qu'il dit avec un grain de sel, puis continuez à vous informer, puis à visiter notre site, puis aller voir nos capsules, puis tout le kit.
Exactement. Fait que j'aimerais ça remercier tous nos auditeurs d'avoir écouté notre podcast aujourd'hui et rester à l'affût. On aime en faire les podcasts. On va essayer de trouver d'autres sujets d'actualité qui sont pertinents.
Ouais, ben en tout cas, merci à toi, Simon-Pierre, pour ce podcast-là. C'est super.
Merci, Charles. On se reprend.
Salut.
Salut.
Alternative Socialiste est un groupe politique qui lutte pour les intérêts des travailleurs, des travailleuses et de la jeunesse. Joindre Alternative Socialiste, c'est s'impliquer dans la lutte.